Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, le bon bouton est ouvert. La transition se fait sans anicroche. C'est bien Source, effectivement, qui débute comme tous les premiers et troisièmes vendredis de plus ou moins chaque mois de cette année 2020 de merde. Et nous aurons tout le loisir de vous entretenir de quelques bonnes nouvelles du front du libre, du front des libres. Car certes, les grands fameux GAFAM dont vous entendez parler de temps en temps ont pris effectivement bien la couverture à eux avec ces confinements, avec ces télétravails obligatoires, avec du logiciel propriétaire une fois de plus. Voilà, donc vous en saurez un petit peu plus également sur ce qu'il se trame là derrière, mais surtout sur toutes les alternatives qu'il y a autour. Également, la communauté européenne est très intéressée aussi par le libre. Elle a mis au point une licence typique à elle qui change un petit peu des General Public License dont on a l'habitude, mais voilà, il y a du neuf sur le front. On en saura un petit peu plus avec Tari Rock le temps que les invités de Graziella prennent leur quartier. Nous, on passe un petit moment de chill out avec Atom et son morceau Naya, si tout démarre effectivement comme il se doit. Bah, c'est vendredi, attention, c'est quand même le jour du troll.
Naya, 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 Na
Ciao tutti. Ah voilà voilà, je mets Wild Waves de Granada un petit peu en pause. Ça va revenir dans quelques instants, un peu de chill out, comme nous sommes un peu plus passés que la fin août. De la petite musique de novembre, oui, on va essayer de vous trouver ça aussi à un moment donné. Salut Tarirox, salut Tirs.
Bien, bonsoir Félix.
Ouais.
Bonsoir Bilout, alors on chilout.
Oui, ça, écoute, il faut. Parce qu'il va ça va faire quink, mais voilà, comme ça je me mets en place, en phase. Ben oui, donc plein de bonnes nouvelles alors. Ce qu'on se disait en entrée, que la communauté européenne a mis au point son petit modèle de licence.
Oui, mais elle a surtout pondu un petit rapport que Thiers avait lu sur sa stratégie 2020-2023 sur le renforcement d'utilisation de logiciels open source et libres.
On parle bien de la stratégie de la Commission européenne,
oui,
de ma stratégie. Hein.
qui est intéressant de voir dans la version française que le mot libre apparaissait bien plus souvent que dans la version anglaise.
Oui, tout à fait. J'en ai même fait un petit post sur ps.zoethical.org, je crois, donc sur le forum de Petite Singularité. Je pense que si on tape ça dans DuckDuckGo, Petite Singularité au pluriel, on pourra trouver aussi le petit post que j'ai fait qui, soulève le fait que la version francophone d'un texte européen parle beaucoup de logiciels libres, alors que la version anglophone, elle parle pas du tout de logiciels libres, mais elle parle plus évidemment de open source. Et c'est assez rigolo parce que c'est le même texte, mais la traduction peut porter un peu à confusion en fonction de la langue dans laquelle on le lit. Mais bon, voilà, donc, l'intention...
Le logiciel libre dans le français moderne et contemporain devrait être traduit par free software dans l'anglais moderne et contemporain, pour rester au même niveau de sémantique signifiant-signifié.
Oui, il y a de ça, il y a même des anglophones qui parlent aussi de free libre software. Oui. Donc voilà, évidemment, c'est pour ça que cette notion libre, pour moi, elle n'est pas omniprésente dans le texte anglophone. Je n'ai pas été regardé dans toutes les langues parce que je ne parle pas beaucoup d'autres langues. Mais voilà, c'est flagrant que on aurait pu conserver source ouverte, source accessible dans la version française. Mais en fait, non, ça a été le mot libre qui a été choisi. Et pas spécialement le mot open source qui a été choisi, c'est bizarre. Mm-hmm. Mais bon, voilà, ça fait une espèce de double lecture du même texte européen.
Ouais.
Et il est juste apparu en allemand, donc il n'y a que trois langues.
Ouais, voilà. Bon. Il n'y a pas l'embarras du choix pour le moment.
Mais du coup, suite à sa découverte de ce texte, moi je me suis dit, ce serait intéressant de voir toutes les contributions que l'Europe fait dans le monde du logiciel libre. Et ils en font, et ça porte plein de noms différents, et... Il y a autant de la contribution de code source brut.
Là on revient au code, on sort du champ de la sémantique.
Tout à fait. Mais aussi des financements de trouvailles de bugs avec les bug bounty, parce que l'Europe aussi, ce programme-là. Du coup, moi, je me suis dit, ce serait chouette que je vous rapporte, au moins tous les 15 jours, en tout cas tous les sources, un logiciel que l'Europe contribue. Mais ça commence d'abord par la licence, parce que l'Europe a sa propre licence. Sinon, c'est pas drôle.
Ah bah oui.
Nous avons la licence publique de l'Union européenne version 1.2. Je vais pas vous la lire, je vous rassure.
Oh dommage.
Ce qui est intéressant, c'est savoir à quoi c'est compatible. Et elle est complètement compatible avec la GPL, sa version aussi Afero, donc la GPL, la Cécil, qui est une licence française, la licence de Mozilla, la LGPL, alors celle-là... les Creative Commons, et il y en a encore 2-3, mais c'est moins intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont réussi à rendre légalement compatible aussi avec des licences qui ont été produites dans l'Europe, comme la Cécil et la Creative Commons. C'est à saluer quand même.
Et toujours avec cette idée de pouvoir utiliser le programme comme on le souhaite, le démonter comme on le souhaite parce qu'on a accès au code source, le remonter, le repartager.
Oui, tout à fait.
Ce qui va à la base de la GPL ancestrale du siècle passé.
On retrouve...
ancestrale.
On retrouve cette notion-là, clairement. Et du coup, un programme qui est sous licence GPL peut du coup être modifié par l'Europe et devenir du coup sous licence EUPL, qui par la suite peut être remodifié par d'autres personnes pour redevenir sous licence GPL. Donc, comme je dis, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant avec la licence de l'Europe, c'est que du coup, elle est traduite dans toutes les langues supportées par l'Europe. Mmh. Et ça peut aider quand on commence à rentrer dans les procédures judiciaires pour les faire appliquer.
Ouh, ça peut aller jusque-là, donc.
Ah bah, oui. C'est ça aussi, une licence.
Par exemple, la licence Cécile a été créée dans ce but-là. Dans le but de faciliter l'application d'une licence équivalente à la GPL, mais dans le droit français. Donc voilà, du coup, je suis au tout début de ma recherche. Donc, aujourd'hui, je vous annonce juste que ça va être une longue histoire. Ça va être apporter un peu de bonheur comparé au bashing des grandes organisations au sens très large.
Les vols de mort.
Et bah, je sais que par exemple la CNIL, donc l'organisme qui s'occupe entre autres d'appliquer le RGPD en France, mais sur plein d'autres sujets, contribue aussi au logiciel libre. Et du coup, je vais essayer de regarder, en plus de celle de l'Europe, dans toutes les CNIL locales de chaque pays, qu'est-ce que eux individuellement font.
Ok, wow. Et parce que ça doit être la Commission européenne qui met au point en route un beau projet comme ça. Après, ça doit être par le ruissellement statutaire fantastique, ça retombe dans les 28 pays. Et donc, on pourra peut-être voir s'il y a des pays qui sont eux-mêmes encore plus sauter sur la balle du libre au bon.
Ça, entièrement, oui, c'est ça l'idée, c'est de voir jusqu'où ça peut... Je sais par exemple que le logiciel VLC reçoit énormément de contributions de la CNIL française, mais aussi de l'Europe. Mm-hmm. Ils ont participé à plein de programmes. LibreOffice a aussi eu ce genre de bénéfices, du coup, de participer au programme européen. Par exemple, pour des logiciels un peu moins connus, mais qui sont beaucoup utilisés, comme Apache,
Là
aussi.
Ça, on est côté serveur, là, on n'est plus là, côté...
C'est vraiment de chaque classique. Côté. Mmh. Il y a eu beaucoup de contributions de l'Europe, et je trouve intéressant de les relever, de les monter.
Et ça date il y a combien de temps? Ça fait déjà 25 ans qu'ils sont sur le coup et ils n'en avaient jamais parlé? Ou ça fait juste 25 jours qu'ils se sont dit « Ah oh bah oui, peut-être le livre, ça pourrait être chouette pour nos concitoyens européens ».
Dans le cas de VLC, je sais que ça fait déjà plusieurs années. Alors, chiffrer quand ça a commencé, je ne pourrais pas le dire.
Non, voilà,
Mais c'est de ce que j'avais lu depuis 2003 où l'Europe essaye de s'investir dans le logiciel libre. Mmh. Ça va, ça date pas non plus d'hier.
Oui, d'accord, c'est bien.
Après, quand ils essayent, c'était peut-être juste un papier à l'époque. Ils se sont dit, on a une vision de voir le ciel, c'est dur, il y a beaucoup de gens. Puis seulement en 2010, on a peut-être identifié 2-3 personnes. Mmh. Voilà. Bon, je chiffre des années un peu aléatoires, mais ça s'est souvent passé comme ça pour l'Europe. C'est d'abord, on écrit un papier, puis ensuite, on voit qui peut remplir, et ensuite, on fait quelque chose.
Ouais. Et est-ce que tu penses qu'ils vont avoir aussi une intention, une pression à mettre sur la plupart des gouvernements européens pour booster le libre, comme à chaque législature, on le fait pays par pays? Enfin, c'est pour la Belgique, on avait pacte...
Clairement, dans la vision qu'ils ont aussi pour 2020-2023... C'est noter qu'ils veulent avoir des alternatives qui ne sont pas gérées par le gouvernement américain et chinois.
C'est ça, hein, y a cette espèce de souveraineté informatique par le libre, que ce soit le Sénat français qui s'est mis sur Riot, anciennement Riot, maintenant c'est Element, s'ils ne devaient plus utiliser WhatsApp.
En tout cas, c'est dans leur stratégie. Alors, à quel point ils font pression sur les différents gouvernements, il faudrait un peu creuser. Mm-hmm. C'est une question qui est intéressante.
Voir si c'est juste une intention, comme ça. Un peu avant la Noël, on dit qu'on va commencer à donner à manger des graines aux oiseaux, parce qu'ils n'ont plus à manger. Et voilà.
Déjà, par exemple, moi, avec le programme de Bugmouti qu'ils ont monté, qui se chiffre à 2 millions d'euros par an, de mémoire, je trouve que c'est intéressant. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est... vous trouvez un bug dans un logiciel lié, vous pouvez le reporter à cette plateforme, ça vous rapporte une certaine somme. Mmh. Si vous apportez la solution, enfin la résolution de ce bug...
Les gains sont doublés.
Les gains sont différents, seront plus grands en tout cas. Et ils poussent ça, et ils ont une série assez longue de logiciels qui supportent qu'on leur reporte des bugs.
Ok. Mais alors ça veut dire aussi qu'ils peuvent avoir une intention et une pression sur les gouvernements européens pour que, au niveau de l'enseignement... primaire, secondaire, universitaire, qu'il y ait une pression un peu plus en mise sur le libre plutôt que le propriétaire.
Ça, ce serait intéressant. Maintenant, l'Europe a rarement fait de grosses pressions. Alors, je ne me rappelle pas d'une décision qui a été prise par l'Europe et en dehors d'un règlement, enfin en dehors des règlements, chaque pays est libre d'interpréter la directive européenne pour l'implanter dans leurs droits.
Oui, oui, c'est ça.
Mais à part le RGPD.
Mais le RGPD, c'est un règlement.
Oui, c'est un règlement, oui, c'est vrai.
Toi, les règlements, c'est applicable sur l'ensemble des membres de l'Union européenne, alors que les directives, c'est implémenté dans les lois des pays membres.
Tout à fait.
Voilà. Mais du coup, pour l'enseignement, il me semble que il y a quelqu'un qui n'aime pas trop...
Oui, tout à fait. Là, on peut voir de ce côté-là qu'effectivement, enseigner avec des logiciels propriétaires, c'est pas évident. Donc c'est alias F-Teacher, mais de son petit nom sur Mastodon, c'est Wanderer, l'homme qui se promène, le promeneur, on pourrait le traduire comme ça. Et bien, il a mis en route quelques vidéos que l'on peut retrouver sur Peertube, et qui, il donne son avis en tant que prof, au niveau éthique, ce que ça donne de mettre les classes entières, ou des universités entières.
Bonjour, LV.
C'est dans les griffes des propriétaires mercantiles et avec des intentions vénales assez impressionnantes. On a un petit moment à passer avec lui, on en saura plus sur le sujet. Et donc, tu peux même changer d'une chaise qui grince à une chaise qui grince par tir, si tu préfères.
Un jour, vous passerez au logiciel libre pour l'enseignement et vous réaliserez que vous avez fait un pas de géant en matière d'amélioration de votre éthique pédagogique. Mon père me racontait qu'il y a 50 ans, on tapait sur les doigts des enfants qui étudiaient mal à l'école avec une règle en fer. Maintenant, on a remplacé ça par la motivation intrinsèque. On fait ce qu'on peut pour que l'apprenant soit intéressé personnellement dans l'apprentissage. Dans cette vidéo, je vais vous parler de logiciels propriétaires et mon opinion personnelle, c'est que le passage des logiciels propriétaires aux logiciels libres représente une avancée en matière d'éthique comparable à celle qui fait passer de la punition corporelle à la motivation intrinsèque. Allez, je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'un logiciel propriétaire ? Un logiciel propriétaire est un logiciel dont le code source n'est pas accessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir comment est écrit le logiciel, comment il fonctionne. C'est une boîte noire, c'est une boîte fermée, on ne peut pas voir ce que fait la boîte. D'un côté, on lui demande quelque chose, elle utilise des ressources de notre ordinateur, et de l'autre côté, elle fait ce qu'on lui demande. On ne sait pas comment. Un logiciel open source, à l'opposé, est une boîte ouverte. On peut voir quels sont les fonctionnements, quelles ressources sont demandées et comment fonctionne le logiciel de manière générale. Comme ces logiciels sont écrits par une communauté d'utilisateurs, on fait confiance à la communauté des programmeurs qui codent et des utilisateurs qui regardent le code. Pour un logiciel propriétaire, on ne peut pas faire confiance au code puisqu'il est caché, il n'est pas auditable. Et on doit donc faire confiance à l'entreprise qui propose ce logiciel. Malheureusement, ces dernières années, les entreprises privées ont largement démontré qu'elles ont la possibilité d'accéder de manière invisible à des données personnelles, et elles le font. Les données personnelles représentent une manne financière très importante, et ces entreprises disposent d'un accès privilégié par ces boîtes noires installées dans les ordinateurs. On connaît la suite. Les données personnelles sont récupérées et revendues au plus gros nombre, de manière légale ou de manière plus ou moins légale. Et donc il y a un double discours de la part de ces entreprises privées qui souhaitent notre confiance. Mais regardons par exemple Zoom, un exemple parmi tant d'autres. Zoom dit dans ses conditions générales d'utilisation qu'il ne revend pas nos données. C'est écrit très clairement, il y a une phrase. Mais il ne les revend pas, effectivement. Il les échange contre des contrats qui comprennent des contreparties financières. Par la suite, on a appris que beaucoup de choses dont se vantait Zoom étaient fausses et introduisaient des failles de sécurité qui permettent de récupérer des données personnelles. On a appris qu'ils n'utilisaient pas du chiffrement fort mais du chiffrement faible, que ce n'était pas de bout en bout. On a appris qu'il y avait une faille de sécurité sur Mac qui permettait de prendre le contrôle du micro et de la caméra. On a appris qu'il y avait une faille de sécurité sur Windows qui permettait de prendre contrôle de l'ensemble de l'ordinateur. Et on a appris que nos données personnelles étaient partagées avec Facebook, croisées avec les profils LinkedIn, sans nous demander notre avis à aucun moment. Tout ceci, ce ne sont pas des défauts de codage. Ce sont des attaques sur nos droits légaux et sur nos droits humains. À minima sur nos droits légaux, puisque la RGPD européenne, la Réglementation Générale sur les Données Personnelles, dit clairement que ces choses-là sont interdites. Et ensuite, sur nos droits humains, puisque quand on se sait surveiller, nous ne sommes plus libres d'exprimer nos opinions librement. En utilisant ces logiciels propriétaires, nous cédons des libertés fondamentales contre un petit peu de confort d'utilisation. Mais revenons à l'enseignement. Si vous pouvez à titre personnel choisir d'utiliser les logiciels propriétaires, il en va tout autrement en matière de pédagogie quand il faut l'imposer à toute une classe. Une petite minute de réflexion s'impose. Prenons l'exemple de Facebook qui, en 2017, crée des fichiers d'adolescents en difficulté psychologique au moment où ils se sentent le plus faibles, le plus inutiles, et revendait ce fichier à des annonceurs comme des cibles marketing particulièrement sensibles aux suggestions en temps réel. Bien sûr, les utilisateurs n'étaient pas informés. Les exemples de ce type sont légion. Le problème, c'est que ce sont des apprenants, sous notre responsabilité pédagogique, qu'on expose à ces risques, sans alternative, et que donc nous portons la responsabilité de la fuite de leurs données, qui n'est pas récupérable dans le futur. En dehors de l'utilisation immédiate des données personnelles des apprenants, il existe un deuxième problème, celui de former nos apprenants à utiliser des logiciels payants. Souvent, les entreprises de la Silicon Valley proposent gratuitement dans les lycées, dans les universités, leurs logiciels pour éduquer les apprenants à utiliser leurs logiciels tout de suite pour les réutiliser plus tard dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Pendant ma première année de master français langue étrangère spécialisé dans les TIS, on m'a obligé à ouvrir un compte Gmail et utiliser Google Doc, Google Drive pour partager des documents avec les apprenants, avec les professeurs. Et la conséquence, c'est que maintenant, j'utilise encore cette adresse Gmail pour des contacts professionnels. On voit bien là le lien entre l'éducation et le monde professionnel, même pour quelqu'un qui est contre ces logiciels propriétaires. Le choix entre logiciel libre et logiciel propriétaire dépend du type de société que vous souhaitez voir émerger. Vous pouvez souhaiter voir émerger une société de partage communautaire basée sur le long terme ou une société privatisée de surveillance où on ne partage pas les connaissances. C'est très simple. Votre choix va imposer ses valeurs à vos apprenants. Au final, je ne suis pas non plus complètement contre les logiciels propriétaires. Je pense qu'ils devraient remplir certains besoins très précis et que les logiciels libres devraient être la norme utilisée dans la société. Et si vous voulez en savoir plus sur les logiciels libres, j'ai d'autres vidéos et vous pouvez trouver plein de ressources sur Internet. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, commenter et me soutenir éventuellement. Allez, bonne journée!
Voilà, c'était Purple Cat et son morceau Flourish, une petite musique qui sent bon le printemps, ses titres frais, légers, joyeux, incite à la relaxation et cela fait du bien. Sorti le 8 mars 2020, ce morceau est le premier d'un album intitulé Bloom et tout entier dédié à la célébration du printemps, de ses fleurs, de ses fruits et de ses odeurs. Ce morceau, plutôt court, est une parfaite introduction à cet album. Voilà, c'était pour faire suite à cette belle réflexion de Monsieur Wanderer qui voilà, disait que si on veut une société de partage, ça se choisit de la même façon que si on veut une société privée, plutôt de surveillance et tout ça.
Ça va, on a une heure pour en parler parce qu'il y a tellement de choses à raconter là-dessus. Mmh. Déjà, juste reparler sur lui, il a été forcé à utiliser Google Cloud pour ses études. Moi, par exemple, j'étais forcé à utiliser Cisco dans mes études de réseau. Mmh. J'avais juste pas le choix, c'était le seul matériel du seul constructeur où on faisait nos laboratoires. Mmh. Et tout ce qui va avec, hein, les facilités de passer la licence, parce que dans ce milieu-là, certaines entreprises ont des avantages financiers à avoir des employés qui sont formés par Cisco. Ils ont des prix dégressifs en fait sur le matériel. Et du coup, si tu as déjà cette licence, bah, sur le marché de l'emploi, tu es plus valorisé.
Oui, mais... puis ça coûte moins cher pour se lancer, que tu as une petite ristourne, hein, un prime au lancement.
Voilà, et sachant que cette licence, si on devait la percer à titre individuel, elle coûte 1 000 euros.
Glouche.
Voilà, qu'on va te offrir gracieusement.
C'est une école qui est entièrement sponsorisée par Cisco à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Elle est ce qu'ils appellent une Cisco Academy.
Cisco Academy, waouh, ok. Et sur le côté, bon, il faut dire un petit peu dans les coulisses, enfin, ce qui se passe pour Cisco. Sinon, on dirait que ça sonne bien. C'est comme Google, c'est comme WhatsApp. Ce sont des noms qui sonnent bien, qui font rien de mal.
Oh, par exemple, la NSA a détourné des équipements réseau Cisco pour pouvoir injecter leur propre firmware, pour ensuite pouvoir écouter tout ce qui se passait sur les réseaux où ils étaient installés, par exemple.
Par exemple, voilà. Même parce qu'il faut savoir ce qu'il y a dans les dossiers, là, tu vois, les trucs qu'on sort avec un peu de...
Cisco, ils sont une entreprise américaine, du coup, toutes les lois américaines, comme le Cloud Act, entre autres, ou le Patriot Act, s'appliquent. Mm-hmm. Et ça, c'est déjà vu.
Voilà, et donc, eux, c'est vraiment... on est à la base, c'est du matériel. Ils font des routeurs, ils font des...
On va dire que c'est quasi impossible aujourd'hui de trouver un réseau informatique qui n'a pas de Cisco. Mmh.
Tellement ils sont bons, tellement ils sont partout, par la force du marketing.
C'est la grande question. Par exemple, moi, j'étais formé dessus. Du coup, une fois que je sors des études, quelle marque j'ai en tête ? Cisco. Ah. Et du coup, qu'est-ce que je propose comme achat de matériel ?
Ouais, bah, du Pepsi. PepsiCo, Cisco. Enfin, je suppose que après, à un moment donné, on se trompe. Hein,
mmh. Oui, comme le vidéaste expliquait, il a été formé avec du Google Cloud. Qu'est-ce qu'il utilise encore comme adresse email aujourd'hui? Gmail.
Gmail, ouais, ouais.
Et il y a aussi un autre aspect qui est l'urgence à mettre des choses en place. Une chose qui est indéniable et qu'on ne peut pas retirer, c'est que des Zoom, des Microsoft, des Facebook, enfin tous ces services propriétaires, bah, ça se met en place en quelques clics.
Ouais, ils ont une capacité de réaction, de un par la capacité, puis de deux par la volonté aussi. Il y a un petit côté Saint-Bernard comme ça. Hein. Je vois bien le tonnelet autour du cou, rempli de...
Mais pour ça, Thiers pourra mieux l'exprimer, mais le temps qu'il faut déjà pour conscientiser au logiciel libre, le mettre en place, le maintenir, c'est un temps de maintenant cette gestion qui est déportée et qui souvent... est pas négligeable.
Non. Mais quand j'en... Par exemple, moi, je n'ai pas été formé à rien. Je me suis arrêté après mes humanités secondaires. Notamment parce que je trouvais que l'éducation, ça ne me permettait pas d'avoir une pensée libre. Et donc, en gros, c'est bien que les logiciels... libres existent, mais en fait, ils sont probablement un peu le témoin d'une forme de résistance ou de rébellion, ou de, on va dire, de profond ancrage à un souhait d'autonomie par rapport à, justement, une tendance évidente, ou qui s'impose, entre guillemets, naturellement, ou qui s'impose... parce que c'est la volonté de certains d'imposer certains outils dans certaines couches de la société, et puis voilà. Mais évidemment, ça crée une marginalisation, donc ça crée un phénomène de... il est évident que souhaiter une société plus éthique, parce qu'elle préfère le partage à la facilité mercantile et économique, et tous les avantages que ça apporte, la propriété, les vacances, le voyage... la possibilité d'acheter des cadeaux de Noël sur Amazon et toutes ces conneries-là avec des cartes de crédit et parce qu'on a des papiers d'identité numériques, digitaux, qui fonctionnent d'ailleurs en partie probablement avec des logiciels libres, c'est le cas en Belgique, mais en partie probablement pas du tout avec des logiciels libres. Et puis voilà. Mais c'est une marginalisation de toute façon parce que c'est un acte de résistance, parce qu'il y a un autre intérêt que l'immédiateté et la facilité. Il y a une recherche probablement, je ne sais pas moi, de défi par l'ambition de l'autonomie. C'est ça la liberté, en fait. Et c'est clair que, par exemple, l'Europe, comme on en parlait ce matin, qui essaye de promouvoir une éducation de sa population, c'est quand même quelques centaines de millions d'habitants, en essayant de construire petit à petit des réglementations qui font prendre conscience de l'enjeu de la donnée numérique aujourd'hui. Ça, c'était un de ses défis. Elle, pour moi, elle l'a remporté. En tout cas, elle a fait émerger dans la tête de plus de personnes qu'il n'y avait par le passé la prise de conscience que la donnée numérique était un enjeu de société. Voilà. Et par ce fait... par exemple, le fait qu'on parle de cette licence européenne qui est compatible avec la GPL, c'est pour, entre guillemets, souligner que des gens clairvoyants comme ceux qui ont fondé ce genre de licence ou les mouvements du logiciel libre, il y a de ça 40 ans déjà, hein, on est au-delà de la... Enfin, on est dans la première, la seconde génération en termes de vie humaine, de prise de conscience de l'enjeu du numérique. Mais quand on voit l'énergie de la résistance, c'est bien parce que c'est plus compliqué de conserver une certaine éthique dans l'utilisation des technologies. Il en est le même pour toutes les technologies. Et donc, du coup, conserver ça, ça demande probablement plus de temps. Ça serait bien si c'était valorisé, mais c'est comme, j'ai envie de dire, tout le monde de l'art et de la culture, ou de l'enseignement, ou du soin de santé. Ce sont toutes des choses de société fabuleuses, mais qui ne sont pas suffisamment valorisées parce qu'elles sont en fait plus difficiles. Malheureusement, nous vivons dans une société où tout ce qui est valorisé pécuniairement, ce sont des choses juste dégueulasses, en général. Voilà. Ça, c'est, tu vois, c'est de toute façon tout un questionnement... qu'une société peut avoir en tant que société, mais qui prend émergence de toute façon dans les individus qui constituent cette société. Et c'est vrai qu'en termes de numérique, quand on voit ce pouvoir d'influence qu'ont des outils comme Facebook et tous les annonceurs publicitaires qui se gavent de tout ce qui sort de Twitter, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Amazon, on en passe par centaines de services de gens, ce sont tous des outils qui finissent petit à petit par réduire la capacité d'autonomie des êtres humains, en fait. La capacité d'avoir envie de résister à une société consumériste et au fond... qui s'ancre dans tous des mécanismes de dominance, qui offre un avantage à une couche d'experts, un peu comme si on était régi que par des hommes de loi ou des hommes armés. En fait, là, on devient aussi régi uniquement par des techniciens ou des technophiles qui ont un avantage sur tout le monde parce que eux savent, parce qu'ils voient de l'intérieur ce que leur logiciel permet. Et c'est pour ça que le logiciel libre est une contre-culture à cette attitude dominante, c'est qu'elle force, grâce à sa licence notamment, à conserver le logiciel accessible à tout le monde qui voudrait y passer le temps nécessaire à comprendre son fonctionnement et à en partager son expérience. Et donc, voilà, moi c'est... J'ai Je suis confronté au fait que faire du logiciel libre et aider les gens à utiliser du logiciel libre, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas très confortable, en fait. Voilà. Et pourtant, voilà, on fait des trucs, hein. Par exemple, Radio Campus est une radio qui fonctionne avec des logiciels libres.
Ah oui, c'est vrai que ça allait être un petit sujet, mais une petite gâterie, là. C'est une praline.
Oui, c'est une praline pour après.
Mais je me demande, dans une société qui ne serait pas une société de consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce que ça marcherait? Est-ce que le logiciel propriétaire marcherait? Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le logiciel propriétaire fonctionne avec un modèle économique qui pousse à la régie publicitaire. J'ai le sentiment que la régie publicitaire existe que parce qu'il faut consommer. Mmh. Si maintenant on vit dans une société qui ne consomme plus, quelle serait la monnaie d'échange pour ces firmes?
J'ai une projection un peu. Enfin, c'est très hypothétique, une société qui consomme plus. Je veux dire, on en fait l'expérience. Dès qu'il fait froid, on a besoin de consommer du bois, ne fût-ce que pour se chauffer. Donc, c'est une réalité. C'est pas une société qui consomme pas. C'est pour moi pas possible. Un être vivant consomme de toute manière pour exister. La question qui est derrière, c'est consommer à outrance ou consommer avec du gaspillage, mmh. par exemple. Je ne sais pas si les logiciels propriétaires existeraient dans une société où on consomme moins. Parce que de toute façon, ça rejoint une autre question sur, au fond, c'est quoi la propriété? C'est quoi les avantages que ça apporte dans une société d'être propriétaire, que ce soit d'une terre ou d'une maison ou d'un château ou d'un logiciel? Donc c'est des débats, c'est des questionnements philosophiques plus étendus que le logiciel en général. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière les logiciels, pour moi, qui suis en même temps technicien et utilisateur et toujours en question perpétuelle, c'est qu'il y a un mécanisme de pouvoir qui est intrinsèque au logiciel. Quand tu es utilisateur et que tu n'as pas le temps de t'intéresser à comment fonctionne un logiciel, ben de toute façon, qu'il soit libre ou propriétaire, tu es dépendant de l'autorité, entre guillemets, qui aura constitué cet outil que tu dois utiliser au quotidien.
C'est là où je me demande de trouver un développeur qui est capable de comprendre le milieu du logiciel libre, ou trouver un développeur qui est chez Microsoft. J'ai le sentiment que trouver un développeur qui est capable de comprendre le logiciel libre est plus facilement trouvable. Et du coup, tu peux apporter une confiance bien plus proche au logiciel que tu utilises.
Rien que par le fait de pouvoir l'auditer, comme disait F-Teacher tout à l'heure.
Oui, parce que ce qui est dit dans le logiciel libre, c'est pas que tout le monde sache lire le code. Ce qui est dit dans le logiciel libre, c'est de trouver une personne dont on a confiance qui sait lire le code.
Ben, ça, le mécanisme de confiance est particulier parce que pour les personnes qui ne se posent pas beaucoup de questions par rapport au numérique ou à la technologie en général, ils vont faire confiance au fait que c'est facile. Donc si c'est facile, c'est que c'est bien fait. Si c'est bien fait, c'est suffisant pour qu'on ait confiance.
Sur ce qu'ils ont appris. Et c'est là qu'on retrouve le milieu scolaire.
Et c'est de fait, parce que oui, on retrouve de fait le milieu scolaire, que c'est clair que dans toutes les écoles, on va former des gens à utiliser des logiciels propriétaires en général, que ce soit Cisco pour le réseau, ou que ce soit apprendre à gérer une instance Azure Microsoft à la con, ou bien utiliser Photoshop ou tous les outils de création graphique qui existent sur le marché, parce que de toute façon, l'éducation, pour le moment, elle a plutôt tendance à essayer de faire en sorte que les gens se mettent sur le marché du travail. Donc du coup,
Je trouve qu'il est intéressant aussi avec le marché du travail, c'est que le marché du travail utilise des outils qui sont appris par leurs futurs employés, dont les écoles essayent de comprendre ce que le marché utilise pour former les élèves. Et un peu une boucle infinie qui est Si tu introduis une fois Photoshop dans un milieu et que ça boucle bien, ben ça y est, c'est utilisé jusqu'à l'infini.
Bah, c'est un projet de société, c'est pour ça que cette personne qui témoignait là tout à l'heure dans sa vidéoconférence, elle questionnait la société vers laquelle on souhaite tendre. C'est-à-dire que c'est clair que pour les capitalistes omniprésents et la manière dont se construit la technologie aujourd'hui grâce à la plupart du temps à des fonds soit publics détournés, soit des capitaux privés qui sont injectés dans des start-up ou je ne sais quel truc du genre. Il y a tout un projet de au fond, c'est un projet de rendre les êtres humains dépendants de toute une infrastructure technologique et d'y retrouver ses billes et un peu plus avec plein d'intérêts derrière. C'est pas un projet de rendre l'information la plus généreusement disponible.
Mais est-ce que c'est pas aussi parce que...
Et d'autoriser la copie, par exemple. On est toujours dans ces mêmes questions de propriété. Tu vois, moi, je reste fasciné par le fait que le numérique ne pourrait pas exister si le copier-coller n'existait pas. C'est donc une technologie, je l'ai déjà dit ici sur cette radio, c'est une technologie intrinsèque à l'existence même et au développement même du numérique, le copier-coller. Mais non, il est confronté à la propriété intellectuelle qui va dire « Ah non, cette œuvre-là, vous ne pouvez pas la copier-coller. » Que ce soit un dessin, un morceau de musique. Et donc du coup, on se crêpe le chignon à essayer de mettre en place des trucs qui sont contre nature avec le pourquoi le numérique peut se développer. C'est dans sa nature, le copier-coller. Mais non, les gens ne veulent pas qu'on copie-colle, ça c'est clair.
À propos de copier-coller... trop picolé. Mais F-Teacher peut nous en dire un petit peu plus sur BBBeer.
Par exemple.
On essaie de l'avoir au bout de framatoc.org/source.
Ah aussi, oui, comme au bon vieux temps.
Ouais.
Oui.
Allez, voilà. Ah, je crois que j'ai pris l'autre carte son qui...
ne permet pas d'entendre.
Qui préfère, en fait, préfère effectivement l'autre. Mais
toi aussi, hein, c'est les joies du logiciel libre. De temps en temps, on bidouille un peu. Hein.
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que là, on est sur.
Il y a toujours la question de l'immense.
Différents types de calibrage qui bougent là.
Les deux possèdent un tableau blanc.
Et donc là, maintenant, ils
sont facilement en direction qui vous propose.
Comme ça, c'est clair, net et précis. Et alors, on pourra peut-être entendre F-Teacher après.
Vous souhaitez faire des visioconférences avec des logiciels libres? Gardez le contrôle sur vos données et celles de vos utilisateurs? Vous ne savez pas quoi dire à votre direction qui vous propose d'utiliser Zoom, Skype ou Google Talk? Eh bien, il existe deux alternatives très intéressantes, particulièrement pour l'enseignement, BigBlueButton et Apache Open Meetings. Les deux possèdent un tableau blanc et sont facilement intégrables dans Moodle ou dans d'autres espaces d'apprentissage. Dans cette vidéo, je vous présente BigBlueButton. Si votre institution possède un serveur, vous pouvez installer BigBlueButton dans le serveur et ainsi vraiment garder le contrôle sur les données de vos utilisateurs. À l'opposé du système avec Zoom ou Skype, où vous abandonnez complètement toute forme de souveraineté sur vos données personnelles. BigBlueButton est une solution ergonomique, facile à prendre en main. Tout d'abord, il existe un serveur de démonstration disponible sur la page de BigBlueButton qui vous permet d'essayer le logiciel, mais qui n'est peut-être pas adapté pour une utilisation régulière avec vos apprenants. Vous pouvez ensuite chercher une association ou quelqu'un qui a une instance ouverte au public. Pendant le premier confinement, plusieurs membres des chatons ont proposé ces services. Aujourd'hui, pour la démonstration, nous utiliserons un compte chez domainepublic.net. Idéalement, faites quelques recherches sur le groupe derrière l'instance en question. Après m'être renseigné sur eux et étant en accord avec leurs principes, J'ai créé un compte en allant à cette adresse. C'est eux qui auront mes métadonnées en main. Si votre institution préfère utiliser les services d'une entreprise pour fournir BigBlueButton, alors ils peuvent chercher des entreprises comme Scaleway, qui proposent des solutions d'hébergement du service. Je mentionne Scaleway, mais il y en a bien d'autres de disponibles. Ce sont des services payants, bien sûr. Regardons maintenant les possibilités offertes par BigBlueButton. Sign in, je rentre dans mon BigBlueButton. Voilà, en me loguant, je vois les différentes salles dont je dispose. La mienne ici, Teacher Homeroom, Sophie et Michael, Discussion. Voilà, ce sont des salles que j'ai créées. On peut en créer autant qu'on veut. Et pour chaque salle, quand je clique, je peux voir en bas les enregistrements des salles qui ont été faits, les enregistrements vidéo. En l'occurrence, je n'en ai pas parce que je n'en ai pas fait. Ces enregistrements sont disponibles pour les étudiants s'ils ont également créé un compte sur cette instance. Et inviter des participants, ici on a le lien que l'on peut envoyer aux apprenants pour qu'ils se connectent à la plateforme et démarrent la visioconférence. Au début, il faut tester son matériel, ici en se connectant sur « Essayer le micro » qui permet de tester et le micro et les enceintes ou les écouteurs. Yep. Donc ça marche. En fonction du serveur sur lequel BigBlueButton tourne, la salle peut accueillir plus ou moins de monde. Sur l'instance de Scaleway, on pouvait recevoir jusqu'à 150 personnes en simultané, avec les webcams allumées. Ici, on voit qu'il y a un chat public. Il y a également un chat privé pour chaque apprenant. On peut discuter juste avec un seul apprenant si besoin. ShadNotes, c'est un document partagé. Ça permet à tous de travailler sur un seul document. Donc ce n'est pas un chat. Il y a la possibilité de gérer les rôles, de donner le rôle d'animateur à une personne ou un apprenant. On peut aussi effectuer des actions comme couper le micro à tous les utilisateurs, sauf le présentateur. On voit ici qu'il y a aussi des break rooms, c'est-à-dire la possibilité de diviser votre groupe, classe, en sous-groupes pour travailler sur quelque chose de particulier, en petits groupes. Et après, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez vous déplacer dans un groupe ou dans l'autre pour voir ce qu'il se passe dans les différents groupes. La solution n'est pas aussi complète qu'avec Zoom, où il y a notamment des rappels de la gestion du temps pour les apprenants, mais c'est une solution, à mon avis, tout à fait satisfaisante. La plateforme fonctionne sur tous les navigateurs acceptant le standard WebRTC, donc Mozilla Firefox, par exemple, Google Chrome, ou Chromium, si vous préférez la version open source, mais aussi depuis un téléphone mobile. Si vos apprenants n'ont pas d'ordinateur, ils pourront toujours se connecter grâce au téléphone. Alors, il y a un tableau blanc où l'on peut uploader des documents de toutes sortes. On peut uploader des points PNG, donc des images, des JPEG, des points TXT ou ODT, c'est-à-dire des fichiers texte, et des PDF de plusieurs pages. Chaque page du PDF correspond à un tableau blanc différent. Le tableau blanc est multi-utilisateur, on peut permettre aux autres d'écrire sur ce document ou on peut garder le contrôle et être le seul à l'utiliser. On voit que l'on dispose de différents outils, notamment le texte, tracer des lignes, des cercles, des triangles, des carrés ou à main levée. Pour chacune de ces options, on peut modifier l'épaisseur du trait et sa couleur. Ce qui est également valable pour le texte, assez facilement, on peut changer la taille du texte. On peut également effacer le dernier objet créé ou décider de tout effacer avec la poubelle. En bas de l'écran, on voit qu'il y a une option pour démarrer la webcam, bien sûr, mais aussi pour partager votre écran. On peut également ici créer un sondage. Ça ouvre pour les apprenants une petite fenêtre sur laquelle ils cliquent et vous avez les résultats qui s'affichent et vous pouvez publier les résultats sans montrer les noms des apprenants. L'ensemble de la vidéoconférence peut être enregistré en cliquant ici sur « Commencer l'enregistrement ». Et on peut en permettre le visionnage par les apprenants par la suite. Également, on peut intégrer une vidéo à la place du tableau blanc et faire lecture et arrêter la lecture en cours de route. BigBlueButton est à mon avis une option très pertinente pour l'enseignement et très ergonomique. Il y a quand même quelques aspects qui m'ont posé problème pendant mes visioconférences, je vais partager ça avec vous maintenant, mais peut-être que pour vos usages, cela ne posera aucun problème. Tout d'abord, il y a le tableau blanc qui n'est pas interactif. Les objets créés ne peuvent pas être déplacés ou redimensionnés. Et ces objets s'ajoutent par couches successives, mais il n'est pas possible d'interagir avec. Autrement dit, vous pouvez difficilement corriger quelque chose que quelqu'un ou vous-même auriez écrit précédemment. Un autre point négatif, on ne peut pas enregistrer son tableau blanc à la fin du cours pour le mettre à disposition des apprenants. La seule option est de faire une capture d'écran que vous partagez par la suite. Par ailleurs, il n'y a pas de possibilité d'envoyer le lien de la salle directement depuis BigBlueButton et il n'y a pas de gestion du calendrier. Cependant, si vous l'intégrez dans Moodle, le plugin permet de donner accès à la salle au moment voulu, de planifier les dates de visioconférence et d'intégrer les dates de visioconférence dans le calendrier Moodle. Le système pour projeter les vidéos est une excellente idée. Pour les enseignants de langue, il ne permet pas de gérer si l'apprenant peut voir ou pas les sous-titres. Par ailleurs, on ne peut pas projeter les vidéos de n'importe quelle plateforme et notamment les vidéos de PeerTube ne sont pas encore supportées. Du point de vue serveur et technique, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je sais que BigBlueButton est un peu gourmand en ressources. Et j'ai aussi vu sur la page Wikipédia en anglais de BigBlueButton que la revue de sécurité n'est pas flamboyante. C'est pas la catastrophe du tout, mais ce n'est pas parfait. Du point de vue utilisateur, c'est très convivial, c'est ergonomique, c'est facile à prendre en main et surtout c'est accessible puisqu'on peut le voir sur différentes plateformes, un téléphone, un navigateur internet. Mais si vous avez besoin d'une solution pour une structure plus large, avec le besoin de gérer les professeurs et les groupes d'apprenants, et également un tableau blanc interactif vraiment collaboratif, alors peut-être que l'option de Apache Open Meetings vous plaira plus.
Et hop là, c'était donc F-Teacher, qui est peut-être avec nous d'ailleurs sur framatalk.org/source. Ce sera les joies du direct. Allô, allô. Sinon, tire, c'est à Rirock.
Nous, on est là. Hein.
Nous, ouais, ouais, nous.
C'est toujours trouver le bon match entre la carte son et la piste framatalk.
Ouais. Ouais, ouais, donc voilà. Donc c'était ça l'affaire de... changer les nouveaux serveurs de campus avec journée porte ouverte d'ailleurs sur le effectivement F-Teacher est avec nous, il nous parle mais on ne l'entend pas encore.
Vas-y chipote, de toute façon nos auditeurs et nos auditrices ont certainement une qualité première nécessaire, c'est la patience.
Oui, ça c'est sûr qu'on les a effectivement bien amenés à ça. Le son ici est tout à fait bon et on va voir un petit peu dans les... pourquoi des milliards de combinaisons alors que des millions auraient suffi?
Ça pour...
J'ai une promesse, peut-être que la semaine, dans 15 jours, j'apporterai de quoi faire ça en studio et pas en régie.
D'accord. Ouais, c'est vrai que l'affaire Mumble, c'était autrement menée. Enfin, c'est une autre technologie aussi, hein. On est bien d'accord. Bon, c'est toujours le grand silence radio, de même que Robert nous a rejoint aussi. Et où en serions-nous dans nos configurations possibles?
Normalement, t'as deux choix.
Ouais.
Et peut-être monter la pige.
Monter la pige, je ne pense pas qu'ici ce soit... Non, tout est bon, tout est... a priori, techniquement parlant, de visu, ce serait opérationnel.
Sauf que ça marche pas.
Sauf que ça marche pas du premier coup.
Merde. Et tu sais pas mettre un morceau de musique et faire un essai?
Je peux mettre un morceau de musique, un vrai morceau de musique dans le genre, on va dire un peu analogique. Oh, bah, écoute, ça pourrait se trouver, hein, ouais.
Bon, je dis ça comme ça, hein, c'est juste que pour une fois qu'on a des gens qui veulent participer à l'émission, ça serait sympa d'essayer de trouver comment on peut avoir la joie d'entendre leur voix sur les ondes radio.
Ok, eh bien, voilà, c'est parti pour un petit Mathieu Bogart et Dick Annegarn. Ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps, n'est-ce pas?
Ouais.
Si ça veut bien, oui, c'était une autre affaire qui venait d'une clé USB qui a légèrement disparu pour le moment.
Ouais. Ah merde, décidément c'est
public.
C'est une journée de merde comme, comme ce magnifique petit jeu dont tu me parles depuis une semaine.
Oui, qu'on n'a pas encore trouvé. Ouais, ouais. Et alors de l'intérêt aussi de changer les serveurs, parce que la musique qui vient de notre serveur principal, mais ont parfois effectivement quelques petites lenteurs à traverser les murs. Hein. Et je
pourtant,
vois.
Il n'y a qu'un mur à traverser. Hein.
Ouais, ouais.
Je dis ça.
Ouais, ouais. Ah.
Mais sinon, on peut parler de BBV.
Allez. Ah, un petit morceau de Zik. Et on trouve la soluce pour notre framatoc.org. Voilà, je vais laisser Carla Bozulic avec son One Hard Man un petit peu de côté, car normalement le son est arrivé chez nous et chez vous aussi. Bonsoir Robert, bonsoir F-Teacher. Allô, allô.
Oui, on est là.
Vous entendez?
Ah voilà, c'est fait, c'est bon. C'est fait, c'est bon. Et alors, le studio est en route aussi.
Youhou.
Parfait.
Bien le bonjour.
Bien le bonjour à vous aussi également. C'était intéressant d'entendre mes radios, mes vidéos passer à la radio. C'est un peu moins visuel.
Oui, mais c'est ça le côté teaser de 19h03.
C'est vrai que ça donne envie de voir les images qui vont avec, parce qu'on se rend bien compte que mais il manque un morceau. Mais bon, allez, je vais aller chercher après la vidéo pour voir le reste.
Oui, oui. Alors, effectivement, pour ça, rendez-vous sur video.tedomum.net. Et là, vous cherchez des vidéoconférences libres avec tableau blanc sur Big Blue Button et vous tomberez sur F-Teacher. Professeur donc de français, langue étrangère?
Voilà, depuis quelques années. Je peux parler un petit peu de mon parcours. Je me suis spécialisé en technologie de l'information et de la communication. J'ai passé un master spécialisé. J'en parlais dans la vidéo où on m'a obligé... d'utiliser des logiciels propriétaires, ne serait-ce que pour participer en fait. Et il n'y avait pas d'alternative proposée du tout. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas suffisamment de logiciels libres pour la collaboration. Et donc, je me suis plié aux diktats de l'université. Et à ce moment-là, en fait, j'aurais bien aimé trouver des informations. En fait, les vidéos que j'ai faites, c'est les vidéos que j'aurais aimé avoir quand je suis arrivé à l'université, pour avoir tout de suite les bonnes cartes en main, parce que pour l'enseignement des langues, l'enseignement à distance, c'est vraiment d'actualité en plus en ce moment. Et pouvoir se former à utiliser tout de suite les bons outils plutôt que de chercher entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui correspond à mes besoins, j'ai besoin de faire de la collaboration sur du texte, je vais utiliser Etherpad, et puis finalement Etherpad, bon, ben, on peut pas mettre de tableau, il y a plein de choses qui sont pas disponibles, et il faut faire une recherche, faut avoir une pratique pour pouvoir trouver les outils qui correspondent aux usages dont on a besoin.
Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais, hein. Il faut une motivation pour chercher des alternatives. Parce qu'il y en a.
Maintenant, il y en a, oui.
Oui, c'est vrai, mais oui, oui. Ah oui, oui, bah c'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas spécialement Internet au débit partout non plus, hein, donc du coup, il faut le temps que les choses s'adaptent et que ben, voilà, les communautés de développeurs ayant de plus en plus de technologies et d'outils et de bandes passantes à disposition, ben, petit à petit, quand ce n'est pas payé par l'entreprise qui a peut-être les moyens de se payer des belles grosses infrastructures avec des bons gros outils de développement, ben, le reste du monde peut-être est un petit peu en arrière, entre guillemets, mais en même temps, j'ai envie de dire, rattrape très très vite le temps perdu, voire même parfois le dépasse, parce qu'il y a quand même des avancées techniques qui sont aussi issues des fruits du travail de la communauté de logiciels libres. Hein. Donc voilà, mais oui.
C'est pas aux instances publiques à justement s'organiser et faire toutes ces recherches pour ensuite fournir un service public?
Alors, à ce sujet, si je peux me permettre, il y a eu récemment les EGN, les États généraux du numérique libre et des communs pédagogiques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Pas du tout.
Pas encore, merci.
Pas du tout. Eh bien, il y a eu deux réunions. En fait, il y en a eu une il y a 2 semaines et la deuxième était ce mercredi. Et c'était une réunion. Il y avait en gros 80 personnes, mais des personnes assez bien placées, essentiellement des professeurs, des médiateurs numériques, des acteurs de l'éducation populaire, des chercheurs, des doctorants, des parents d'élèves et des membres de l'APRIL aussi, la grosse association du libre en France, et aussi de Framasoft du collectif Faire Ensemble, Faire École Ensemble. J'ai peut-être oublié quelques acteurs, mais enfin, tous ces gens-là se sont réunis pour discuter des pratiques de classe. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a des solutions proposées par les entreprises propriétaires, des solutions propriétaires proposées par des entreprises, maintenant on a dans le milieu du libre, je m'excuse, j'ai un petit peu mal à la gorge, il y a des entreprises, il y a des associations qui proposent tous ces services de manière, c'est mis à disposition très facilement. Je pense notamment au Chaton en France, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui propose toute une gamme d'instances, de différents services qui sont très utiles, notamment pour l'éducation, mais aussi pour tout un tas d'autres domaines. et c'est une grosse avancée. C'est des choses qu'on n'avait pas techniquement il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour trouver une instance d'un logiciel dont on a besoin, pour de la visioconférence, par exemple. C'était plus difficile. Il y avait Framasoft, mais qui ne pouvait pas couvrir des besoins.
Mais c'est ce qui s'est passé, ouais, au début du confinement, côté mars, avril. Le gouvernement, le ministère de l'éducation française a renvoyé tout le monde chez Framasoft, qui ont dit mais c'est pas à nous à faire tout ça. Et puis ils se sont dispatchés après avec les différents chatons qui existaient. Mais même, c'était un beau pied de nez, en tout cas.
Même pour les chatons, ça reste quand même beaucoup de bénévoles et beaucoup de chatons sont sous forme de bénévolat. Ça reste quand même pour moi une fuite des services publics.
Bien dit, l'ami.
Oui, bien envoyé.
Je suis d'accord que ça permet de dépanner et ça permet de trouver des solutions, surtout dans le contexte qu'on vit actuel où au tout début il a fallu trouver des solutions et pas trop réfléchir de comment ça se faisait. Et là-dessus, Framasoft a joué vraiment belle main en redirigeant vers les chatons, et les chatons dans l'ensemble ont réussi à apporter une qualité de service suffisante pour garder certains pans d'activité publique. Mais je trouve que là, on a un manque de pression sur les pouvoirs publics, sur leur expliquer, d'accord, c'est des bénévoles qui le font, mais en fait, ça devrait être le service public qui devrait s'emparer de ce sujet, et ça prend beaucoup trop de temps.
Alors, à ce sujet, l'April a fait mettre en avant, a demandé qu'est-ce qu'il fallait mettre en avant parmi toutes les différentes propositions qu'ils avaient. Et l'essentiel des gens ont dit il faut que le ministère de l'Éducation arrête de dire que on favorise les logiciels libres, mais au contraire qu'on donne la priorité aux logiciels libres. Mmh. Bon, alors c'est une petite différence sémantique, on pourrait dire, et puis on voit pas un investissement énorme effectivement du ministère de l'Éducation dans ce sens-là, mais il y a une pression populaire qui va quand même dans ce sens, à leur dire bon, ben il faudrait vraiment faire quelque chose dans ce domaine. Après, est-ce que être dépendant du ministère public systématiquement, c'est une bonne solution? Je ne me prononcerai pas là-dessus.
Ouais, c'est pour ça que c'est difficile pour les pouvoirs publics, c'est que les pouvoirs publics ont quelque chose de centralisé, hein, parce que c'est quand même, voilà, les pouvoirs publics, c'est l'État, c'est centralisé. Et le paradoxe, c'est que beaucoup d'autonomie numérique encourage aussi à la décentralisation. C'est-à-dire que au lieu de capter toute une gamme d'utilisateurs ou d'utilisatrices vers un service mis en place par une grosse institution, quelle qu'elle soit, ben il y a une espèce de prise de conscience de la part des, on va dire, militants du numérique, que ben, la décentralisation, donc utiliser Internet pour ce qu'il est, c'est-à-dire encourager le fait que quiconque a les ressources techniques, financières, les moyens de mettre en place une instance de BigBlueButton, Moodle, Framatalk, Etherpad, quoi que ce soit, tout ce genre de services qu'on retrouve sur chaton.org, par exemple, chaton au pluriel, ben c'est un peu paradoxal avec le rôle de l'État qui a un côté, par essence, centralisant. Et donc ça doit être difficile pour des gens qui sont, on va dire, aux manettes, de prendre la décision d'encourager la décentralisation tout en étant eux-mêmes centralisés dans un État. Mais ça viendra, je suis sûr, ça viendra. Mais
pour reprendre, on pourrait imaginer de la décentralisation au niveau des universités, des écoles, etc., où on pourrait avoir des financements pour avoir des serveurs, des moyens humains aussi mis à disposition, parce que finalement, les contrats qui sont passés avec Microsoft, etc., au niveau de l'éducation, c'est de l'argent qui pourrait être investi tout à fait ailleurs de manière décentralisée, c'est-à-dire juste que l'État impulse ça, soutienne financièrement, peut-être techniquement aussi, mais que chaque institution soit responsable de ses données, de qu'est-ce qu'il collecte, de ce qu'il collecte, etc.
Revenir sur les deux points, mais le premier qui est, par exemple, l'éducation et les technologies, si on prend le cas de la Belgique avec la Flandre a tout un système géré par la communauté flamande sur des logiciels qui sont mis à disposition des écoles pour l'éducation. Et avec, je sais pas, j'ai pas creusé plus savoir quelles technologies ils utilisaient derrière, mais je sais qu'il y a tout un package technologique qui est mis à disposition des écoles pour travailler. Chose que la communauté francophone bruxelloise n'a pas.
Encore. On n'a plus.
À l'heure actuelle, là-bas. Et sur l'autre point, qui est fournir les moyens aux écoles et que ce soit décentralisé au niveau des écoles, quand je vois dans les écoles où moi je suis passé pour mes éducations, il y en a une, elle était tellement loin de tout qu'avoir mieux qu'une connexion ADSL, c'était quasi mission impossible. Donc, il y a aussi ce côté-là, c'est comment on arrive à rendre suffisamment connectées les différentes écoles pour qu'elles fournissent en local, mais aussi à l'extérieur, des services.
Ouais, de fait.
C'est une des questions qui a été largement évoquée pendant les états généraux du numérique libre. Mon point de vue sur la question, c'est que la fracture numérique et le manque d'accès à l'éducation par Internet, parce qu'il n'y a pas les moyens, tout simplement, de se connecter, elle existe, elle est là. Est-ce que c'est à la communauté du libre de répondre à ces difficultés? Je ne suis pas sûr.
Mais j'ai l'impression qu'elle les répond déjà d'une manière, dans la manière que les programmes sont créés. Si on prend par exemple BBB ou Jitsi, si on prend le cas de ces deux programmes, typiquement le fait que de fournir par défaut la possibilité d'interdire à tout le monde d'avoir une webcam en réduisant du coup la bande passante drastiquement et d'avoir que l'audio, est déjà une, enfin, c'est déjà des choix politiques au sein des logiciels sur, on a conscience qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement la capacité technique de tout recevoir.
Dis, teacher, j'ai une autre question plus. Une question d'être honoré, mais tu as trouvé une instance de Big Blue Button chez Domaine Public, nos copains voisins. Comment es-tu arrivé si près de chez nous?
En cherchant, j'ai cherché où il y avait des instances de Big Blue Button. Pendant le premier confinement, il y a eu plusieurs instances qui ont été proposées par les chatons, et donc j'étais pendant un temps chez eux, et après je me suis retrouvé sans instance parce que je ne possède pas de serveur. Et donc tout simplement j'ai fait une recherche, et j'ai tapé dans DuckDuckGo, j'ai tapé instance publique Big Blue Button, et comme domaine public il y a public dedans, je suis tombé dessus, voilà.
Yes.
Et j'ai découvert, j'en profite pour dire que j'ai découvert domaine public comme ça, et que j'ai vraiment adhéré à l'esprit de domaine public. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment très bien. J'en profite pour soutenir l'association, quoi.
Merci pour eux. Et de fait, oui, même s'ils n'ont pas directement la médaille chaton, proprement dite. Avec un
Je crois qu'ils sont chatons. Hein.
Oui,
ils sont dans la liste des différents chatons.
Il me semblait qu'ils n'avaient pas envie de cette appellation.
Moi, en tout cas, j'ai trouvé des services de domaine public dans les chatons. Alors, c'est peut-être pas eux qui les y ont mis, mais ça m'étonnerait quand même.
Okay. Pourtant, ils ont bien une gamelle à chat dans leur cave.
Ouais.
Et Big Blue Button, tu arrives à le propager auprès de 6 personnes par semaine, 10 personnes par semaine, 20 personnes par semaine. Enfin, tes cours de français langue étrangère se passent essentiellement là-dessus maintenant.
Alors, j'ai pas énormément de cours en ce moment, et pour tout dire, j'en cherche pas vraiment. Mais c'est vrai que j'ai fait l'essentiel de mes cours sur Big Blue Button. J'ai commencé avec Jitsi. J'utilisais des solutions techniques un peu, je faisais du partage d'écran et je partageais un tableau blanc interactif, un tableau blanc numérique sur mon écran. Enfin, je faisais des trucs un peu, je me suis adapté comme j'ai pu, et Big Blue Button, ça représente une grosse amélioration.
Oui.
Bientôt, je vais faire une vidéo sur un autre logiciel de visioconférence qui est aussi très très bien, c'est Apache Open Meetings. Je sais pas si vous connaissez. On commence à parler d'infrastructure parce que c'est pour des grosses structures, des universités qui voudraient gérer des classes, des professeurs, des groupes de professeurs par faculté et qui proposent des choses aussi très très bien. Donc je vais en parler bientôt.
Ouais, et là, il y aura une horloge dans chaque sous-groupe que l'on fabrique pour que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans Zoom, comme tu disais.
oui, je sais, c'est pas fondamental. Les break rooms, c'est pas ça qui fait la didactique et la qualité du cours. On peut se débrouiller autrement. C'est pratique.
Tout à fait, mais c'est parce que tout ce genre de petits détails, petits outils qu'ils rajoutent au niveau captologie, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus vouloir décoller de chez Zoom. Ou d'autres qui vont plus vouloir décoller de chez Teams, parce que voilà, ils ont trouvé des petites choses qui font que c'est cosy.
C'est un peu le piège avec beaucoup de logiciels propriétaires, c'est qu'ils sont beaux, ils sont clinquants à l'œil et ils sont très, l'ergonomie est travaillée, ils ont eu des moyens beaucoup plus importants pour développer tout ça et donc ils sont très attirants c'est ce que disait Richard Stallman, je sais plus dans quelle conférence, mais il disait que tout ça ce sont des pièges, des moyens d'attraper les personnes. Et en fait, moi j'essaye de zapper complètement tous les logiciels propriétaires. Alors je suis pas un puriste en étant contre les logiciels propriétaires, mais j'essaye de m'en séparer et de pas succomber aux attraits de certaines qualités. J'essaye de me dire, bon, si vraiment les choix didactiques que j'ai faits, je peux pas les appliquer à cause du logiciel, alors là, j'irai peut-être voir dans les propriétaires. Mais tant que des logiciels libres me permettent de mettre en place tous mes choix didactiques, alors Je reste dans le libre, bien sûr. Et après, c'est alors, facile, en fait. En connaissant beaucoup de logiciels. Oui.
Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Je pensais au fait de faire des super tutos de prise en main des fonctions de base des tutoriels. Mais après, comme tu disais, par rapport au côté didactique, pédagogique, est-ce que tu as des opportunités de pouvoir partager avec des collègues, des confrères, des consoeurs, quel type de dynamique tu arrives à introduire dans un Big Blue Button pour que ce soit de la pédagogie active ou en tout cas que ce soit gai d'apprendre, parce que j'en connais qui donnent des cours pour bien se servir de Zoom.
Pardon, je n'ai pas bien compris les questions.
Est-ce que tu as la possibilité de faire des tutoriels pour le côté didactique, pédagogique d'utiliser BigBlueButton? Tu as fait un super tuto pour la prise en main et montrer les fonctionnalités qu'il y a dedans, mais après, au niveau professionnel en tant que prof, tu peux...
Moi, je me suis un peu spécialisé sur la visioconférence et... En fait, il y a des modèles didactiques différents qui vont correspondre à des situations différentes. Alors, je peux faire des vidéos sur la didactique de la visioconférence dans un domaine bien précis, mais je présente pas toute la didactique de la visioconférence. Il peut y avoir des tas de situations différentes. Moi, ma spécialité, c'est la visioconférence en poste à poste, ça s'appelle, c'est-à-dire en one-to-one, quoi, en un à un. Et je fais pas de cours à plusieurs, enfin j'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas ma spécialité et je ferai pas de visioconférence, de vidéos sur ce sujet-là. Je vais faire d'autres vidéos sur la visioconférence en un à un, parce que là c'est vraiment mon domaine et j'ai beaucoup de choses à raconter. C'est pas les vidéos qui intéressent le plus de monde, je dois dire, parce que c'est un domaine quand même assez pointu.
Oui, voilà, mais c'est pour partager avec les confrères et les consoeurs, profs comme toi aussi.
Et justement, je vais te demander, dans le corps professionnel que tu côtoies, est-ce qu'ils sont... Ils regardent tes expériences, en tout cas ta manière d'enseigner, avec bienveillance, ou c'est plutôt non, on est bien tranquille chez Zoom, on préfère pas changer.
Alors pour l'instant, bon, ça fait 10 jours hein, que mes vidéos sont publiques, hein, je dois le dire quand même. Donc pour l'instant, en dehors du fait que j'ai mis sur mon CV que je faisais du logiciel libre, jusqu'à présent on m'a toujours demandé dans les créations que je faisais, c'était d'utiliser Zoom. Enfin pour les, j'ai fait quelques stages où on m'a permis d'utiliser des logiciels libres, où j'ai pu implémenter ça. Mais c'est vrai que dans le cadre de mon travail, on me demande souvent de faire mes visioconférences sous Zoom parce que l'université a déjà un abonnement à ça et il faut l'utiliser. Point. Et c'est même pas discutable, en fait. Il y a une vraie force de... Une grosse inertie. Tiens, il y a de la musique.
Non, c'est juste le début du générique de l'émission qui viendra après. Mille excuses.
D'accord, c'est pas grave. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question.
Clairement. Mais ouais, du coup, ça répond que le corps d'enseignant n'est pas spécialement prêt encore à être bien ouverte à accueillir.
Je peux aller un peu plus loin dans ma réponse en reparlant de l'université où j'étais, où on était spécialisé en TIS, en enseignement tout à distance. Enfin, on s'est spécialisé dans l'enseignement des langues tout à distance. D'accord. Et j'ai été en contact avec de nombreux enseignants, professeurs, et aussi avec d'autres universités. Et je me suis aperçu que, alors que c'est nous qui devrions être, entre guillemets, le fer de lance sur ce genre de mouvement, les gens n'étaient pas formés. Je me suis retrouvé, moi, alors que j'avais peu de connaissances, à sensibiliser les étudiants, un petit peu les professeurs, et sur des thématiques qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'est moi qui animais un groupe de discussion à l'université sur les logiciels libres les Creative Commons et des choses comme ça, alors que je ne suis pas du tout spécialisé et que j'attendais de mes enseignants qu'ils fassent cette démarche. Et en fait, non, il m'a fallu, moi, essayer de les convaincre et j'ai eu droit à un petit espace de discussion. Mais c'était, il y a une inertie assez forte et c'est difficile de changer les habitudes, quoi.
Ah oui.
Ouais, c'est pour ça qu'on a une émission à l'Université libre de Bruxelles qui traite du logiciel libre qu'il y a dans le monde. Les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois. Donc, welcome, hein, F-Teacher, quand tu as d'autres... Enfin, tu préfères que je t'appelle F-Teacher ou Wanderer?
C'est au choix.
Au choix, finalement. Ça va. F-Teacher, c'est plus facile à dire, je trouve.
Ouais.
Un vendredi soir de troll. Oui, donc c'est sûr que le Big Blue Button, tu peux entrer en contact avec la communauté des devs pour proposer des petites fonctionnalités en plus. Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit comme ça en premier?
La possibilité de streamer PeerTube dans Big Blue Button. Ça a été évoqué pendant les ENG et on a fait on s'est groupé pour demander cette fonctionnalité dans le GitHub. On a plus soyé à fond et on espère bien que ce sera implémenté. Voilà, j'encourage tous ceux qui écoutent à encourager l'implémentation de ça parce que sinon Framatalk, enfin Big Blue Button permet continue l'hégémonie de YouTube et ne permet pas les gens qui vont utiliser en plus Big Blue Button, c'est ceux qui vont être intéressés par le libre et qui vont vouloir utiliser PeerTube. Ouais. C'est pour ça que c'est dommage que ce soit pas implémenté. Et d'ailleurs, je l'ai aussi demandé en fait dans d'autres GitHub sur H5P, notamment H5P, qui permet de faire des activités, des vidéos interactives. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir les vidéos de PeerTube. Bon, en l'occurrence, il y a 5 personnes qui ont demandé. Enfin, je n'ai pas regardé récemment, mais bon, peut-être un jour.
Mmh. Okay. Et c'est le bon moment pour parler de la pépite.
La pépite.
La pépite.
La pépite. Ah, la pépite, les gnuragistes qui vont réinstaller les serveurs de campus.
C'est oui, ça, je vois l'heure qui défile.
Ah. Oui, de fait. Donc,
et Robert qui est aussi de la partie. Enfin,
ah oui,
coucou.
C'est vrai.
Ouais,
bonjour. Bonjour Robert.
Salut Robert.
Bah, bonsoir tout le monde, ça va tout le monde.
Ah bah oui, ça va. On fait d'aller. Non, ben voilà, on va... avec les gnuragistes, donc on essaie de fournir un support GNU Linux à la Radio Campus en n'étant pas tout seul. Hein, on est 3, 4, 5, 6, ça dépend de qui satellite autour des gnuragistes et de notre repo Git sur notre propre serveur. Donc on a commandé des nouveaux disques durs pour remplacer un peu les disques durs sur les serveurs existants de Radio Campus et en profiter pour réinstaller quelques services un peu vétustes, un peu plus trop à jour, un peu trop bidouillés ou des trucs comme ça. Et donc on se propose de faire ça publiquement en fait, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser la mailing list de Radio Campus et peut-être le site de source ou Mastodon ou je sais pas, pour avertir que quand on a le matériel, en fait on va fixer des dates et à ces dates-là, quiconque a envie de venir voir comment ça se passe et papoter de logiciel, papoter d'infrastructure, papoter de numérique, tout ça, c'est le bienvenu.
Avec des beer qu'on peut mettre au frigo.
Par exemple, oui, cela se fera dans une ambiance bon enfant, comme il commence à manquer par les temps qui courent.
Il y aura aussi
Est-ce
du jus.
Il y a un site internet pour les gnuragistes?
Sur gnuragistes.es, il y a une toute petite page qui mène aux coordonnées et notre numéro de téléphone. On réfléchit petit à petit à se dire qu'on devrait rendre ce site un petit peu plus explicite dans nos manières de fonctionner, dans les outils qu'on met à disposition et qu'on utilise et dans nos projets ambitieux de numérique libre et de collectivité de sysadmin entre guillemets. Voilà. Merci à toutes et tous.
Merci F-Teacher. Bonne continuation. On te suit sur PeerTube pour les prochaines vidéos, tutos, Open Apache Service, tout ça.
Ouais, tout ça.
Pas de problème. Merci à vous.
Bonne continuation.
Allez, bonne soirée à tous, à dans 15 jours.
Oui, à dans 15 jours, Robert.
Yep.
À bientôt.
À bientôt.
Où le programme a le contrôle.
Et oui, on se retrouve effectivement premier, troisième vendredi de 18h30 à 19h. Je laisse la place à What Is It.
Non, de 18h à 19h30.
Tu dis
oui, c'est le 18h à 19h30.
J'avais.